France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Guillaume Apollinaire et Blaise Cendrars. Deux des plus brillantes étoiles dans la vaste constellation de la poésie française. Deux êtres ayant le goût de l'invention, de la provocation, de l'expérimentation. Deux artistes extraordinaires qui ont éclaboussé le XXe siècle de leur talent. Deux amis, deux compagnons liés par une amitié intense et tumultueuse, pleine d'amour et de conflits, que raconte Blaise Cendrars dans ce troisième entretien au micro de Michel Manol en 1950. Bon vivant, éternel farceur, c'est un portrait joyeux et facétieux d'Apollinaire que dessine ici l'auteur de la prose du Transsibérien. Victime de son propre succès, de son propre génie presque, Apollinaire est aussi décrit comme influençable. Derrière ces quelques reproches qui se glissent discrètement, de façon presque inaudible dans cet entretien, se cache également une autre source de tension. Avant même qu'ils soient amis, Cendrars aurait envoyé à Apollinaire son poème « Les Pâques à New York », une longue déambulation poétique et désabusée dans les rues de la mégalopole américaine. Cette lettre reste sans réponse, et le poème de Cendrars est publié en octobre 1912. En novembre de la même année, Apollinaire publie « Zone », qui est extrêmement bien reçu, et par la critique, et par le milieu littéraire parisien. Cendrars est furieux. Pour lui, il est évident que Zone est largement inspiré des innovations formelles et thématiques qu'il met en place dans son propre poème. Si Apollinaire n'avouera jamais le lien entre ces deux œuvres, les spécialistes abondent aujourd'hui dans le sens de Cendrars. C'est donc le récit d'une grande amitié, certes, mais toujours teinté par l'ombre du doute et de la jalousie que nous conte Blaise Cendrars, dans cet entretien diffusé pour la première fois le 23 octobre 1950 sur la chaîne nationale.
La radiodiffusion française présente... En bourlingant avec Blaise Cendrars. Propos recueillis par Michel Manol, speaker Charles Bassompierre, réalisation d'Albert Riera.
Vous avez paru surpris l'autre jour, mon cher Michel Manol, quand je vous ai parlé du poète assassiné.
Oui, j'y ai beaucoup repensé depuis et...
Vous paraissiez absolument surpris, eh bien que voulez-vous? Je vous ai cité cette petite anecdote pour vous prouver que je n'ai pas seulement reçu des balles à bout portant, mais même des choses de cet ordre-là qui vous blessent peut-être plus profondément encore qu'un coup de feu.
D'ailleurs, je dois dire que lorsque j'ai évoqué moi-même Guillaume Apollinaire, ma pensée a été beaucoup plus loin que ce que je voulais exprimer. Vous avez cru comprendre que je parlais d'Apollinaire comme un de vos ennemis, alors qu'en réalité, je sais qu'il n'en est absolument rien, que vous...
Absolument rien, comprenez-vous, ce pauvre Guillaume, il lui est arrivé d'être influencé. Il lui est arrivé de subir une influence telle que, par exemple, il m'a fauché un titre. Que voulez-vous que ça me foute? Il m'aurait rendu la pièce que j'aurais publiée tel que. Par exemple, quand j'ai publié l'or, alors il y a eu des cris dans les protestations dans la presse. Monsieur Victor Marguerite ou Paul Marguerite, je ne sais lequel des deux, envoyé adresser une lettre à Comédia pour dire qu'en telle année, il avait déjà publié un livre qui s'appelait l'or. À ce moment-là, la chose avait tendance à faire boule de neige. Comédia a ajouté que non seulement Marguerite avait publié un livre intitulé « L'or », mais que Paul Fort avait fait jouer une pièce à l'Odéon qui s'appelait « L'or ». Écoutez, ça me fout, moi. L'or, c'est l'or. Je regrette que l'or ne soit pas...
Le poète assassiné, c'est un livre qui a fait fortune et...
Non, c'est pas un bon livre, le poète assassiné.
C'est un livre qui figure honorablement.
Et alors, quand j'ai dit ça à Apollinaire, il m'a dit, mon vieux, t'en fais pas, tu verras. Eh bien, je vais te dédier une histoire. En effet, il m'a dédié une histoire, je ne sais plus. Le roi Arthur, je crois, si je ne me trompe pas. Oui. Où, une fois de plus, mon nom était mal orthographié. Mais enfin, tout ça, là, beaucoup d'espèces d'importance. Et de temps en temps, quand on se bagarrait, Guillaume et moi, je disais, tant pis pour toi, mon pauvre Guillaume, si jamais je suis obligé d'expliquer tout ça, je ne veux pas le faire maintenant qu'il n'est plus, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est moi qui ai publié à la sirène, lorsque j'étais éditeur, le premier livre qui apparut après la mort d'Apollinaire, qui est le flâneur des deux rives, je lui avais trouvé le titre, mais là, il ne l'avait pas chipé, je lui avais fait cadeau. Et réellement, je suis tombé sur un passage où j'ai hésité. Comme je corrigeais les épreuves, c'est moi qui donnais le bon à tirer, le pauvre Guillaume en voulait l'enterrer. Eh bien, je dis réellement, il va un peu fort. J'étais tenté de corriger, et je ne l'ai pas fait, par respect pour... Pour respect, ça faisait partie de son caractère. Il avait tout de même un côté romain, polonais, etc. Et puis en plus de ça, il subissait la mentalité de l'époque, qui, comme je vous l'ai dit l'autre jour, était très pénible et tout à fait désagréable pour les jeunes. On n'admettait pas les jeunes, on n'en voulait pas à aucun prix.
On a fait bien des portraits de Guillaume Apollinaire. Il y a bien des biographies qui lui ont été consacrées. À votre avis, quel est le portrait le plus exact que l'on puisse donner de lui?
Je ne sais pas, je ne les ai pas lus. Je n'ai lu que le Rouvert.
Mais vous-même, enfin, je n'ai lu quand vous Rouvert. Évoquez Apollinaire, quel souvenir en avez-vous?
Un excellent souvenir, non, d'un gay compagnon qui ne tarissait pas de raconter des histoires toutes plus horrifiques les unes que les autres, à table, bien entendu. Il était gros mangeur, gros buveur, toujours gai, avec un œil extrêmement malicieux. C'est bien qu'on ne pouvait pas lui en vouloir. Il pouvait jouer des tours pendables et il trouvait toujours moyen de s'en tirer par un éclat de rire. Lequel éclat de rire vous faisait rire et tout le monde riait. Puis on oubliait le sujet de la dispute jusqu'à la prochaine fois.
Vous savez comment il procédait, n'est-ce pas, avant d'écrire ses poèmes, il se promenait en chantonnant. Et souvent, je vous ai entendu chantonner aussi, et Max Jacob chantonnait également. Est-ce que c'est de Guillaume Apollinaire que vous tenez enfin ce goût pour la chanson, enfin pour...
Non, moi je suis des chansons.
Parce que nous sommes d'une génération qui ne chante pas.
Mais oui,
au contraire, n'est-ce pas, Max avait toujours une chanson aux lèvres, une chanson populaire, romance.
Braque est venu passer quelques jours à la campagne à Villefranche. Il sortait de maladie, il était très mal foutu, il avait été opéré, il avait mauvaise mine, il était fatigué. Et il s'est couché dans l'herbe, au soleil, etc. Et un beau jour, ça faisait peut-être 8-10 jours qu'il était là. Il me dit, mon Pibles, tu ne sais pas ce qui vient de m'arriver ce matin. Je dis, non, qu'est-ce qui t'est arrivé? Imagine-toi, je me suis surpris en train de siffler. Je dis, j'en sais, tu es bien content, mais permets-moi de te dire que c'est au moins 6 jours que tu siffles. C'est pas aujourd'hui que tu as début. Mais ça n'était pas rendu compte.
Mais parmi tous ces gens que vous rencontriez autour d'Apollinaire, est-ce qu'il y avait des...
Oh, il y avait chez Apollinaire un défilé de casse-pieds. Un défilé de casse-pieds qui venait s'initier à la peinture, au cubisme, etc., qui prenait des notes, aussi bien des critiques que des collectionneurs, marchands de tableaux. Et Apollinaire se faisait un malin plaisir de raconter toute espèce de blagues pour les fiches dedans.
Est-ce que vous avez rencontré chez lui souvent le baron Mollet?
Oui, bien sûr. Mollet était son secrétaire à un moment donné. C'était un drôle de personnage. D'ailleurs, il est toujours là. J'ai entendu dernièrement à la radio racontant ses souvenirs sur Apollinaire. C'est un farceur, Mollet. Et un farceur. Je l'ai rencontré un jour, un dimanche soir, en plein été, rue La Boétie. Vous imaginez ce désert qui est la rue La Boétie. Si bien que j'ai vu Mollet de fort loin, du côté de Saint-Philippe-du-Roule, qui m'arrivait droit dessus, chantonnant, sifflotant, puisque nous étions tous comme ça, très gais, avec un petit sachet à la main, comme un sachet de confiseur. Il m'arrive droit dessus, il me dit, mon cher Blaise, j'ai pensé à toi. Dieu, on vient canoniser Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, alors je t'apporte un petit sachet rempli de terre, de la terre de son tombeau. Et je l'ai cueilli spécialement pour toi, naturellement. Il a ajouté, ça vaut bien 100 francs, non?
Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une espèce de phénomène de mimétisme qui s'est produit? Enfin, je ne sais pas si c'est le contact de Max, mais il est arrivé à lui ressembler.
Oh, non.
Vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine ressemblance?
Il a toujours été comme ça.
Un certain physique.
Il était gilet, il n'avait pas les crises de tristesse de Max. Il n'a pas jamais été touché. Bien qu'il m'ait vendu le sachet de Terre Sainte, il n'a jamais été touché par le mysticisme.
Mais...
Quant au mysticisme de Max, eh bien, j'ai eu personnellement beaucoup de mal à le prendre au sérieux. Mais il paraît que c'était réel. Je n'ai pas vu Max à Saint-Benoît. J'ai jamais été le voir à Saint-Benoît. Mes dernières rencontres étaient des rencontres parisiennes, au moins que c'était plus parisien que jamais.
C'était au moment de l'hôtel Nollet, ça aussi.
Non, je n'ai jamais vu l'hôtel Nollet.
Parce que depuis son séjour à l'hôtel Nollet, il s'est retiré définitivement.
Alors moi,
je n'ai
jamais vu l'hôtel Nollet. Je vous parle de rencontres parisiennes dans un tout autre milieu, qui n'avait rien de bien ecclésiastique, au contraire.
Enfin, vous avez rompu définitivement avec tous ces gens en 1917 et vous ne les avez revus ensuite que par intermittence.
Oui, je les voyais quand je venais à Paris. Je les rencontrais de gauche, de droite, par hasard.
Et si on faisait le compte de toutes les années que vous avez passées à Paris, combien d'années cela fait-il en
tout ? Je ne sais pas, beaucoup.
Vous avez vécu bien davantage en dehors de France qu'en France.
Moi, je ne sais pas, mais enfin, je revenais toujours en France.
Et parmi toutes ces villes que vous avez vues, il y en a certainement qui sont selon votre cœur, comme vous l'avez dit, de Sao Paulo.
Oui, mais... il y a des villes que j'adore. J'adore Marseille, j'adore Lisbonne, où je vais souvent, où je vais très souvent. J'adore aller traîner dans les quartiers pauvres et abandonnés de Lisbonne. Et quels quartiers sont au centre de la ville? Ce sont des vieux quartiers avec des maisons portugaises anciennes. Et on rencontre toute espèce de drôles. D'ailleurs, j'appelle tous les habitants de ces quartiers des vagabonds, vagabundos. Et alors, je suis copain avec eux en tant que vagabundos. C'est fou le nombre de gens qu'on peut rencontrer à Lisbonne.
Cette capitale de l'Amazonie qui s'appelle Manaus doit être une bien curieuse ville aussi.
Manaus est une ville très curieuse, c'est une ville morte. Quand j'y suis allé, c'était une ville morte. La grande époque du caoutchouc était terminée. Ils avaient construit à l'époque où le caoutchouc payait, c'est-à-dire tout à fait au début de l'industrie automobile. Ils avaient vendu leur caoutchouc. Michelin achetait à peu près toute la production. Tous les habitants étaient plus ou moins millionnaires. Ne sachant que faire de leur argent, ils avaient fait construire un opéra sur le modèle de l'Opéra de Paris, un peu moins grand, bien entendu, mais équipé pour jouer Perceval de Richard Wagner ne se jouait qu'à Bayreuth. Et à Paris, on a construit le Grand Théâtre des Champs-Élysées, on l'a équipé d'une machinerie à la vapeur, afin de jouer le Perceval de Wagner quand Perceval tomberait dans le domaine public. Et à Manaus, on n'a jamais joué non plus, parce que l'architecte américain à qui ils avaient commandé la toiture leur a livré une première toiture qui était beaucoup trop grande, puis leur a livré une deuxième toiture qui était beaucoup trop petite, tout ça exprès pour vendre trois fois son toit. Le troisième collait. Alors la ville était déjà abandonnée, était encore illuminée à l'électricité, la forêt envahissait déjà, les rues du pourtour.
Il y avait de magnifiques avenues, je crois qu'il y avait tous.
Oui, toujours. Les automobiles débouchaient à fond de train dans la forêt hier. Et Manaus, on est resté là.
Mais lorsque vous êtes allé en Amazonie et que vous avez cherché ensuite une documentation, enfin, ou avant, une documentation sur l'Amazonie, vous êtes tombé sur le livre de Ferreira de Castro.
Alors, tu peux tomber sur le livre de Ferreira de Castro.
Si, vous avez choisi
livre,
parmi
le livre
cette
de Ferreira
littérature.
De Castro a été choisi parmi 200, 300 volumes.
Parmi 200 ou 300 volumes.
Parce que les bons volumes sur l'Amazonie, comme je voulais en traduire un, tellement le pays m'avait pris. Je voulais absolument publier le meilleur livre sur l'Amazonie. Et le meilleur livre sur l'Amazonie est un tout petit livre de 112 pages, rédigé par un jeune commandant de cargo qui avait fait des bêtises et qui s'était réfugié en Amazonie et qui, durant 10-12 ans, a fait cet atroce voyage de Para à Iquitos tous les ans, qui connaissait l'Amazonie sur le bout du doigt, mais qui n'était pas écrivain et qui a rédigé son livre sur l'Amazonie dans un langage tellement local que les termes qu'il emploie sont sans équivalent dans aucune langue du monde, ce qui était une difficulté de plus, et un attrait de plus pour le traduire, mais réellement j'y ai renoncé parce que j'aurais dû accompagner presque chaque mot de 2-3 pages d'explication.
Explication. Il parlait de la faune, de la
forêt,
de la flore.
Il parlait de la flore, de la faune, des vents, des rats de marée, des fourmis, des mouches, de tout. Alors les autres livres, plus ou moins romancés, genre Pierre Benoît, par exemple, n'étaient pas complets. Et c'est un ami brésilien qui m'a signalé le livre de Ferreira de Castro, que j'ai traduit avec beaucoup de joie, parce qu'il est beau, il est complet.
C'est magnifique, c'est
toi. Il y a des échappées, il y a un historique, il n'est pas ennuyeux. Et je l'ai fait avec beaucoup de joie. D'ailleurs, c'est un bouquin qui a eu beaucoup de succès.
Naturellement, l'aspect de la forêt vierge, tel qu'il l'a décrit, est resté...
La forêt vierge reste la forêt vierge.
Seulement, les conditions de vie dans la forêt vierge en Amazonie ne sont certainement plus les mêmes.
C'est encore pire.
Par exemple, ces seringueros dont il parle, qui
mènent
une vie misérable.
Pire. Durant cette guerre-ci, on a envoyé deux divisions de travailleurs du Ceará pour cueillir le caoutchouc. Eh bien, aux dernières nouvelles, on a perdu les traces de la moitié de l'une de ces divisions.
C'est par conséquent, les conditions de vie sont exactement les mêmes. On n'a jamais pu pénétrer plus avant dans la forêt vierge et la prospecter davantage.
Prospecter, oui, mais l'exploiter, c'est une autre question.
Mais pourquoi choisit-on surtout des...
Parce que les paysans de Ceará habitent une terre qui se dessèche et qui se transforme lentement en désert. Les déserts nord-brésiliens sont les plus atroces de la planète. Alors ces malheureux cherchent et doivent vivre, alors on les embauche dans des conditions épouvantables, n'est-ce pas ? Et on les envoie là-haut, et très peu reviennent,
Tout l'intérieur du Brésil, par conséquent, le Sertão, c'est un désert, c'est un maquis.
Non, vous avez le Sertão, ce qu'on appelle le Sertão, c'est la brousse. C'est la brousse, c'est le bled, ce sont des forêts, ce sont des collines couvertes de forêts, ce sont de grandes réserves pour l'avenir. La culture, comme on épuise les terres, on a épuisé les terres depuis longtemps sur la côte, et que les terres à café de l'État de São Paulo sont en train également de se dessécher, épuiser, les gens émigrent vers l'ouest, vers ces forêts qui sont très productives. Mais dans le nord du Brésil, il y a une question de climatologie qui se pose, qui est due au vent, aux alizés qui dessèchent les pâturages et tout ça. Le Sertão n'est pas un désert, c'est la Caatinga qui est le désert et qui est la plante des cactus et toute cette flore infernale de piquants, etc. Même les bœufs ne peuvent plus vivre aujourd'hui.
Et Rio de Janeiro, vous l'avez vu grandir, vous l'avez vu
périodiquement. Non, Rio était déjà une très grande ville, c'est une ville étonnante. Ce que j'ai vu grandir, c'est São Paulo. À São Paulo, qui est la ville industrielle et qui devient une ville d'usine de plus en plus, où l'on construit une maison par heure.
Une maison par heure ?
Une maison par heure.
Depuis combien de temps ?
C'était la première ville du Brésil à avoir construit des gratte-ciels.
Depuis combien d'années êtes-vous pas retourné au Brésil ?
Pour la dernière fois, je suis allé au Brésil au moment de la crise en 1929, au moment de la première crise financière mondiale.
Je voudrais vous poser une autre question, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, parce que vous avez fait tant de voyages au cours de votre vie, vous avez fait tant de pérégrinations, qu'il vous sera peut-être difficile d'y répondre.
Allez-y.
Je voudrais savoir quel est le plus beau voyage que vous ayez fait.
Le plus beau voyage que j'ai fait est un voyage que j'ai fait de New York à Paris, en passant par Rotterdam, pour 5 dollars. Le dollar valait à l'époque 100 sous, ça m'a fait 25 francs. Si bien que la compagnie, propriétaire du bateau à bord duquel j'ai fait cette traversée, perdait 42 francs sur mon billet de chemin de fer de Rotterdam à Paris. Maintenant, si vous me demandez pourquoi c'est mon plus beau voyage, je vous dirai qu'à bord de ce bateau, il y avait 400 passagers, hommes et femmes et enfants, refoulés par la police américaine. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas en règle, qui n'avaient pas les papiers en règle, ou qui avaient fait des bêtises aux États-Unis, ou qui n'avaient pas eu de veine. En somme, tous les malchanceux, rien que les malchanceux qui n'avaient pas fait fortune en Amérique. Chacun d'eux m'a raconté son histoire. Là aussi, j'ai pris des quantités de notes, chose très rare chez moi. En somme, j'ai photographié tout leur récit, mais j'ai perdu le cahier. J'ai perdu le cahier qui contenait tous ces récits, sténographiés. Mais un jour, je l'écrirai.
Mais il y a aussi des voyages que vous n'aimeriez certainement pas refaire.
Bien sûr, il y a des voyages que je ne voudrais pas refaire. Mais bien sûr, des voyages en sleeping, ennuyeux et mortels.
Vous connaissez des pays ennuyeux et mortels ?
Oh diable, non, c'est pas ça qui manque. Vous ne parlez pas de pays, vous parlez de voyages. Il y a des voyages réellement où il ne se passe rien, où il n'y a rien à voir, où on, On est mal tombé, on tombe avec des ennuyeux, c'est pourquoi jamais je n'aurais voulu faire une croisière de milliardaires comme la première croisière de milliardaires que j'ai vu débarquer à Villefranche, qui leur coûtait 7 millions, je crois.
Vous n'avez pas voyagé que dans des transatlantiques, vous avez fréquenté les cargos aussi.
J'ai fait les cargos.
Ce Volturno, par exemple, c'était un rafio, sans doute.
Là, je voyageais, j'étais interprète à bord.
J'étais interprète, et là, il y avait des quantités de gens aussi que vous avez pu interviewer, et vous avez pu prendre
oui,
des quantités de
notes sur ces émigrants. Oui, on connaissait nos noms, là. Il suffisait de les voir pour ne jamais les oublier.
Et dans toutes ces villes, qu'est-ce qui vous a séduit le plus?
Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous séduit à Paris, vous? C'est Paris, c'est bien difficile à dire. Tel quartier plutôt que tel autre quartier, bien sûr, on a toujours un quartier que l'on préfère à d'autres, comme on préfère un café à un autre café. Enfin, les villes sont les villes, elles ne se ressemblent pas, c'est ça qui est mystérieux, n'est-ce pas?
Oui, vous
devez... Une ville comme Pékin, que voulez-vous, c'est d'une telle antiquité, le plan est si raisonnable, tout ça est divisé d'une façon admirable. C'est tellement vieux que même le pavé de Pékin est plein d'ornières, parce que les carrosses, depuis ceux de l'empereur jusqu'au chargement, la suite des armées roulait toujours dans la même ornière. Tout c'est terriblement émouvant.
C'est un souvenir assez triste pour vous que d'évoquer Pékin.
Pékin,
parce
qu'il y avait tout, mais c'est un Pékin.
Très malheureux.
Tout oh, j'ai crevé la faim, qui ne m'a pas permis de crever la faim dans sa vie. J'étais tout gosse, quand j'en étais réduit. Aller me chauffer au coin des rues, parce qu'il fait très froid l'hiver. On allume de grands feux de bois où les misérables vont se chauffer et ça ne manque pas. Alors tout de même, on n'avait jamais vu ça, on n'avait jamais vu un blanc aller se chauffer avec les jaunes au coin d'une rue.
Mais vous travailliez à ce moment-là à l'hôtel des wagons-lits?
Oh, après, c'est pas du premier coup que j'ai travaillé à l'hôtel des wagons-lits. Avant, j'ai travaillé chez un facteur de piano. J'ai surtout crevé la faim.
Mais vous veniez de quitter la Russie, après la rupture avec Rogovine et...
Non, c'était avant.
C'était avant? Mais vous avez raconté ailleurs que vous aviez gagné votre premier million, pourtant, vers les environs de votre 20e année.
Oui, j'ai gagné mon premier million avec Rogovine dans la bijouterie.
Et à ce moment-là, il n'y avait
plus
rien.
Parce que garçon-là, ce type-là, était très gentil. J'étais parti avec lui sans poser aucune espèce de condition. Quand j'avais besoin d'argent, eh bien, je lui demandais du fric, il me donnait une poignée de billets de banque. Et j'ai travaillé des années avec lui, dans ces conditions-là, on n'a jamais parlé d'une mensualité ou d'un machin régulier. Et quand je l'ai quitté, après une autre brouille, il s'est trouvé que sur chaque affaire que nous avions faite, il avait prélevé et porté à mon compte en banque, au Crédit Lyonnais, des sommes, si bien j'ai eu mon million.
Et ce million,
mais je l'ignorais.
Ce million était dissipé comment?
Ah, alors,
au moment où vous étiez à Pékin, vous n'aviez pas encore touché les sommes.
Non, à Pékin, j'avais 15 ans, je débutais dans toutes ces bêtises.
Dans la série Les Entretiens, la radiodiffusion française vous a présenté En bourlingant avec Blaise Cendrars, propos recueillis par Michel Manol. Réalisation d'Albert Hiera.
C'était En bourlingant avec Blaise Cendrars, troisième partie, avec Blaise Cendrars au micro de Michel Manol. Diffusé pour la première fois le 23 octobre 1950 sur la chaîne nationale et réalisé par Albert Hiera. À suivre.